Bonjour à tous et bienvenue sur Extasia.fr pour notre podcast numéro 11, la deuxième partie de notre compte-rendu du Festival du film asiatique de Deauville 2014. Nous sommes aujourd'hui le 6 mars. Hier, vous avez découvert les avis de Jérémy, Nicolas et Marc sur l'ouverture et No Man's Land. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus nombreux puisque nous avons la joie d'accueillir Elvire. Bonjour Elvire.
Bonsoir.
Frédéric. Salut Frédéric.
Bonsoir.
Et Julien, qui est un peu loin. Salut Julien.
Salut.
L'événement du jour, il y a beaucoup de films, donc on va aller très vite. Enfin, on en a au moins pour une heure, j'imagine, mais on va essayer d'aller le plus vite possible. C'était la présentation de Monsters par Hideo Nakata, qui a eu lieu ce soir à 20h. Nous avons eu le plaisir de voir, enfin le plaisir ou pas, on va en parler dans quelques instants, de voir ce matin en projection de presse à 9h. En tout cas, on a eu le plaisir de rencontrer Nakata. Le film sort en salle, on met donc pas trop de spoilers pour ceux qui vont en parler. C'est le retour enfin de Nakata qu'on avait quitté sur grand écran avec Chatroom il y a quelques années, sur le petit écran avec TV Show. Est-ce que selon vous c'est un retour triomphal ou pas du tout? Qui veut commencer? Peut-être Marc, tu viens tout juste de sortir de la projo de 20h. Donc, qu'as-tu pensé du film?
Clairement c'est un peu une mauvaise pioche pour Nakata. Donc en fait, le film, c'est parler du scénario, c'est le remake d'un film sud-coréen qui s'appelle Hunters, qui était sorti en 2010. Et donc, ça parle de la lutte, en gros, entre le bien et le mal, entre une personne qui a des pouvoirs télékinésiques. Et en gros, en regardant les gens, il peut contrôler les mouvements des gens et donc leur faire n'importe quoi, des meurtres, etc. Et surtout, voler leur argent pour s'enrichir. Et un jour, il tombe sur un type sur lequel ses pouvoirs ses pouvoirs surnaturels, ses pouvoirs
ne peut pas déplacer les objets en même temps. C'est télékiné.
Ouais. Il tombe sur un type sur lequel ses pouvoirs surnaturels ne fonctionnent pas. Et du coup, il y a une lutte entre ces deux personnes, une lutte à mort. Et donc du coup, ça c'est le scénario le scénario du film est bon. Le scénario est déjà pas palpitant à la base. Le film original était pas terrible. Et là, Nakata, c'est encore pire. Parce qu'il rajoute à l'histoire beaucoup trop de pathos. Et finalement, ça gave un peu. Et puis, Nakata est quand même connu pour pas faire couler beaucoup d'hémoglobine et faire un petit peu plus dans le psychologique ou dans le fantasme. Et là, bon, ouais, c'est effusion de sang, c'est baston. D'ailleurs, les bruitages des bastons, on dirait du Street Fighter. Et franchement, c'est un peu indigeste.
Est-ce que Jérémy, Nicolas, vous partagez cet avis?
Ouais, je suis d'accord avec Marc. Ça nous a fait un petit choc ce matin à 9h. À 9h du matin, voir un film de cette trempe, c'était un peu douloureux. Il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas beaucoup de rythme non plus, avec des acteurs qui en font, hélas, des caisses, dédicaces aux personnages des sidekicks, l'homosexuel et le geek, un qui mange des saucisses sur bâton et l'autre qui collectionne les cartes Pokémon, ou je ne sais pas, voilà.
En fait, l'homosexuel, lequel est le geek?
En fait, ils sont tous un peu tangents, mais c'est, la caractérisation est catastrophique. On a l'impression de voir un film d'un n'importe quel réalisateur lambda, quoi. C'est pas de la grosse flip, c'est pas un grand film de science-fiction. C'est vraiment raté sur tous les plans, pratiquement. Je sauve quelques visions assez intéressantes, notamment des scènes, des espaces mentaux. Mais en tout cas, oui, des plans vraiment terrifiants. J'en retiens deux où il joue sur la notion de zombie aussi, qui est assez intéressant. Mais ça sauve pas un film, quoi. Deux plans dans un film, c'est assez catastrophique.
C'est un peu ça, on a l'impression qu'il y a énormément de choses qui viennent de la production, qui ont été imposées à Nakata. Il trouve un tout petit espace de liberté, notamment dans les références qu'il accumule. J'avais vu une référence à Vertigo dans la dernière scène. Nakata est fan d'Hitchcock, mais apparemment il a dit qu'il n'avait pas forcément pensé à Hitchcock, mais plutôt à Michael Mann pour la confrontation entre les deux personnages. ce qui n'apparaît pas, enfin ce qui n'est pas flagrant dans, dans le film. Par contre, on trouve bien une référence très appuyée à Akira, dont les pouvoirs du personnage, qui sont des pouvoirs mentaux, se reflètent effectivement dans, dans le film. Alors, il y a une, en tout cas, on pense très très fortement à Cassable de Shyamalan dans cette thématique, puisque la, la némésis du vilain, en fait, celui qui a les pouvoirs mentaux, est à peu près les mêmes pouvoirs que Bruce Willis dans, dans Incassable. Il n'y a malheureusement pas la même subtilité que, qu'on peut trouver dans le cinéma de Shyamalan. Et il y a une référence à La Nuit des Morts Vivants, effectivement, avec une horde de personnages possédés qui attrapent le héros tel des zombies. Malheureusement, c'est vrai qu'il ne va pas plus loin qu'une espèce d'accumulation de petits clins d'œil, comme ça, où il se fait plaisir. Quelques cadrages qui suggèrent une mise en abîme de l'horreur en jouant sur des effets de miroir, de reflets à travers les écrans de télévision, ce qu'il faisait très bien dans Ring, par exemple, hein, et qu'on retrouve alors, vraiment à 2-3 scènes. On a l'impression qu'il a un espace de liberté qui est de plus en plus réduit dans le film et que finalement, l'ensemble de l'œuvre est complètement impersonnel et complètement oubliable, quoi. Ça pourrait être signé de n'importe quel réalisateur japonais lambda qui signe son premier film, même pas sous influence de Nakata, en plus, c'est le pire, c'est même pas du sous Nakata, quoi, pour le coup. On retrouve quelques points de Nakata dans le film.
On a même le sentiment que c'est. On a le même sentiment qu'on a eu devant Warano Tate de Mickey, où il y a quelques petites touches et où il y a des scènes, il y a des aspects du film où on sent que ça les intéresse. Et là, on sent quelques petites. Une patte certaine, mais ça dure sur 5 minutes, ça dure 30 secondes, quoi. Donc finalement, c'est une production japonaise qui s'uniformise et les auteurs se noient un peu dans ce système-là. Et on a l'impression que Nakata est, le style Nakata est complètement dilué dans une sorte de gloobie-boulga un peu indigeste, quoi.
Après, c'est un peu la question qu'on peut se poser en voyant le film et en voyant tous les autres films du réalisateur. Qui est finalement, est-ce qu'il y a vraiment un style Nakata? On a vu notamment Ring et Darkwater qui sont des films essentiels du cinéma japonais d'horreur contemporain. Pour autant, est-ce que ce ne sont pas plutôt des accidents de parcours qui fait qu'il s'est retrouvé avec un bon scénario, un bon sujet, une bonne équipe à un moment donné et que c'était dans l'air du temps plutôt qu'un véritable talent de... En tout cas, alors pas de metteur en scène, mais un véritable talent de cinéaste, parce qu'il est assez doué justement dans la mise en scène pure et plastique, mais beaucoup moins justement dans le fait d'imposer une patte sur un projet de commande.
Je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense que ça restera l'homme de un ou deux grands classiques, comme peut l'être par exemple, je suis peut-être pas d'accord, mais comme peut l'être Wes Craven par exemple, où finalement il a.
De Wes Craven, quoi. Lesquels de Wes Craven finalement?
Bah voilà, c'est La Dernière Maison sur la Gauche, La Colline des Yeux, Les Griffes de la Nuit, qui ont créé, qui ont été quand même, c'est quand même des matrices de voilà, c'est une matrice de beaucoup de beaucoup de films.
Ouais, La Dernière Maison sur la Gauche, l'original n'est pas terrible. Quand même.
Bah c'est fondateur en tout cas. C'est fondateur et. Mais Nakata, je pense que ça sera ça. Je pense qu'il a inspiré bon nombre d'auteurs. Avec ses films, avec Ring ou Darkwater, il a créé une vague, il a créé quelque chose, il a créé un style. Mais lui, en lui-même, il essaie de retrouver un peu, comme Wes Craven, je fais un petit peu le parallèle, mais il essaie de retrouver une formule magique, quoi. Il essaie de retrouver un peu ce succès, un concept ou quelque chose, mais finalement, ça prend pas. Et je pense que oui, ça restera l'homme d'un ou deux succès. Ouais.
En y repensant, moi, je ferais plus une comparaison, mais ça rejoint ce que tu dis avec Romero et La Nuit des Morts Vivants. Qui aussi, à mon sens, n'a pas un véritable talent de cinéaste, par contre, qui a su capter quelque chose avec La Nuit des Morts Vivants et avec Zombie, voire avec le troisième.
Hein.
Et c'est un peu ça, et finalement, Nakata, on le retrouve avec les rings qui continuent, puisqu'il y a eu un Sadako 3D qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il n'a rien à faire avec ce Sadako, mais en tout cas, il a lancé quelque chose, et finalement, à côté, il y a peu d'espace pour se renouveler.
Nicolas, tu voulais peut-être rajouter quelque chose?
Non, moi, vous avez tout dit. Ça fait, en gros, son ouais, Monster, ça fait film de mauvais faiseur, quoi. Il n'y a pas de personnalité. Même au niveau de la photographie, c'est très basique. L'impression de voir cette photographie dans la plupart des films japonais qui sortent d'aujourd'hui. Donc, très, très déçu. Aucun potentiel, aucune tension. Des scènes qui se répètent pendant tout le film. un acteur, l'acteur qui joue le bad guy qui surjoue avec ses gros yeux bleus là. Voilà. C'est pas terrible du tout.
Quand il se concentre, voilà. Et toi, il fait
l'impression qu'il va faire caca. Quoi,
ouais, oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Il y a un peu de ça.
Il y a un peu de Scanners, mais il n'y a pas de tête.
C'est ça. C'est presque ça. On attend que les têtes explosent.
Et ça ne marche pas.
Alors, Monsters était hors compétition. Il sort en mai. Il y a un autre film qui était en compétition et qui sort très prochainement, dans les mois qui viennent. Je crois que la sortie de... Je vais parler de Glee, donc, qui est le nouveau film d'Anurag Kashyap, dont la sortie maintenant a été calée, mais me semble-t-il a été repoussée. Donc, il sortira d'ici la fin de l'année sur les écrans français. Donc là aussi, pas de spoilers pour ceux qui l'ont vu. C'est donc le retour du réalisateur indien de DFD et de Gangs of Wasseypur, surtout qu'on avait découvert en France. Julien, tu l'as vu aujourd'hui.
Avec Elvire.
Avec Elvire qui va également nous en parler. Est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle très brièvement et nous dire ce que tu en as pensé également?
Alors, au niveau du synopsis, c'est un père qui est, il me semble, divorcé ou en tout cas séparé de sa femme. Qui vit maintenant avec un inspecteur, je crois, ou un chef directeur de commissariat. Et il arrive une après-midi, il doit aller chez un pote qui est directeur de casting pour aller récupérer des textes. Il emmène sa fille avec lui et finalement il la laisse dans sa voiture en bas de l'immeuble. Et puis finalement, quand son pote arrive, on découvre que la petite fille a disparu. Donc après s'ensuit tout un jeu de quête pour aller rechercher la fille, et en même temps on s'aperçoit que voilà, il y a pas mal de relations, il y a pas mal de tensions familiales et pas mal aussi de d'appétence, on va dire, pour la rançon, sans dévoiler des niveaux des spoilers. Alors on peut scinder le film en deux parties. Enfin, je pense. La première partie est assez un peu confuse, c'est-à-dire que c'est un petit peu déstabilisant de voir, de pas savoir les tenants aboutissants. Il y a une sorte d'imbrication au niveau des scénarios avec une partie flashback qui est assez déroutante. Mais on voit tout de suite la patte du réalisateur, surtout au niveau de la scène d'ouverture qui est pas du tout indienne entre guillemets. Et globalement, le film n'est pas du tout. Pas d'accord, mais si tu réagiras après.
Bah, c'est un film indien.
C'est un film indien, mais au niveau de l'ambiance qui est instaurée, au niveau des sonorités, par exemple, c'est pas un film choral qu'on pouvait retrouver, c'est pas un bon gros Bollywood, même si générique de fin témoigne d'une certaine.
Ça témoigne aussi du renouveau de Bollywood par rapport à l'ouverture internationale qu'il peut y avoir. Donc, ça répond pas effectivement à l'idée d'un film Bollywood.
Ouais, tout à fait. Ouais. Plutôt dans le sens que je voulais le mentionner. Et dans la deuxième partie, par contre, c'est un petit peu plus prévisible, ce qui est un petit peu dommage. Et on voit aussi qu'il y a un certain cahier des charges qui devait être respecté peut-être au niveau de la production, surtout sur l'aspect comique qui peut aussi témoigner d'une certaine absurdité de la situation. Mais bon, on voit quand même clairement que la production a imposé certaines règles qu'on peut retrouver dans le cinéma sud-coréen d'ailleurs. Et que c'est ce qui lui a permis également d'un petit peu s'occidentaliser, en tout cas de s'ouvrir au niveau des frontières. Donc, ce qui est vachement intéressant. Mais globalement, le film est vachement dynamique. Il dure 2 heures et pourtant, on s'ennuie pas du tout. C'est très agréable à suivre. C'est un bon film de genre. Voilà, après, je ne sais pas si Albert, tu veux rajouter des trucs là-dessus.
T'as dit le principal, à mon avis. J'ai trouvé aussi le film très efficace, avec un rythme qui s'essouffle pas très souvent, durant 2 heures. Moi qui connais strictement rien au cinéma indien, en fait, j'ai été agréablement surprise de voir que ce film était très accessible à ceux qui connaissent pas justement les canons du cinéma indien et qui se représentent ce cinéma comme les films de Bollywood, en fait. Quelques maladresses aussi, j'ai remarqué quelques maladresses dans la deuxième partie. Mais le dynamisme et le souffle qu'il peut y avoir durant 2 heures, en fait, ont réussi à me convaincre.
Et plus globalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment une nouvelle vague du cinéma indépendant indien qui est en train de se mettre en route et qui est vraiment en train de se populariser au niveau de l'Amérique, au niveau de l'Europe, ce qu'il n'y avait pas avant. C'est ce qu'on remarque aussi avec On the Job, c'est aussi avec Issa qu'on avait à Vesoul, mais qui est dans un style complètement différent.
On the Job, c'est Philippe.
Ah, On the Job, pardon, c'est Philippe. Ok, je crois que c'était.
Mais
on voit qu'il y a.
The Lunchbox, par exemple, qui justement.
Voilà, The Lunchbox, qui a eu un gros succès avec Ritraj Batra. Mais on peut remarquer quand même qu'il y a vraiment un élan du cinéma indien. Bon, après, je connais pas les autres pays, mais en France, ça commence à vraiment assez bien prendre et c'est plutôt apprécié. Et je pense qu'on peut raisonnablement penser que dans 2-3 années, on peut le mettre peut-être au même niveau que Japon, Chine et Corée, qui eux sont, en tout cas au niveau du Japon et de la Corée, qui sont peut-être en train de stagner au niveau des sorties en France. Hein, je parle
The Lunchbox est bien dans les. Fait des bonnes rentrées parce que
ouais, complètement,
je le vois encore, il est encore au hall après.
Non, il marche très très bien.
Ouais. Je pense que lui pourrait trouver son public aussi.
Il a cartonné aussi en Inde, c'est si bien, c'est qu'ils ont gardé le côté un petit peu conservateur. En même temps, ils ont réussi à aller au-delà et trouver aussi certains points qui pourraient intéresser l'Europe et l'Amérique. Donc ils ont trouvé un pont entre les deux.
C'est vrai, alors, je tempérerai un peu quand tu parles justement du fait qu'il y a la production qui en fait impose au film, dans la mesure où alors il me semble que Kanwa Kashyap est réalisateur, scénariste, producteur et monteur de son film. Ouais. Donc je pense que justement il a une vision très globale de son cinéma et vise à la fois le public indien en connaissant très bien ses goûts et en utilisant les canons de ce qui peut plaire au public de Bombay notamment et ce qui marche à Hollywood. Tout en visant un public international, les festivals et le grand public en Europe et à l'étranger. Ah, donc je pense qu'il est très, très malin
une démarche consensuelle, par exemple, parce qu'il faut quand même qu'il arrive à. Je pense qu'il a fait peut-être une petite étude de marché au niveau du cinéma global pour qu'il puisse intéresser le maximum de personnes avec son cinéma. Mais justement, c'est un petit peu consensuel. Sinon, on pourrait considérer que c'est un petit peu impersonnel de sa part et que lui, il faudrait faire son cinéma, mais il faudrait aussi que d'un autre côté, si ta patte, en général, t'as pas non plus un côté universel comme à Miyazaki, quoi. T'es toujours un côté où ça va plaire à beaucoup et peut-être ça va pas plaire à certains, quoi.
Donc peut-être qu'il a sa patte quand même.
Hein. Voilà, il a sa patte, mais je pense que derrière il y a quand même une certaine consensus, en tout cas pour il essaie de faire plaisir un petit peu à tout le monde. Et enfin, The Lunchbox y arrivait très bien. Ugly, je pense que raisonnablement ça pourra plaire à beaucoup de monde, quoi.
Je dirais l'inverse. Enfin, je dirais que The Lunchbox est beaucoup plus consensuel, justement parce que il vise vraiment ce public. Alors que Ugly, comme Gangs of Wasseypur, me semble assez honnête dans ce qu'il est. C'est-à-dire que le réalisateur est nourri de Bollywood, donc on retrouve ce rythme, très, on va dire, très coloré. Enfin, c'est pas et très musical. Mais en même temps, ce qu'il aime, c'est le cinéma d'action coréen, qui a une influence aussi sur son cinéma. Le cinéma d'action et les grandes sagas américaines, je pense qu'il y a Coppola très certainement en tête, avec quelque chose de peut-être plus sale justement qu'on retrouve dans le cinéma coréen. Donc de fait, Ugly est à l'image de ce qu'aime le réalisateur, en fait, des références et des influences qu'il peut avoir. Donc tout en ayant une patte qui est assez unique, parce que ce mélange entre des influences occidentales et le cinéma de Bollywood dans un film d'action, c'est quelque chose qui est assez inédit, quoi.
C'est un peu fourre-tout aussi des fois, où t'as des scènes un peu où il n'arrive pas à se contenir vraiment et il balance au maximum un peu d'absurde, un peu des petits ralentis à la Guy Ritchie limite des fois, où t'as des trucs un peu c'est un peu déroutant par moment, mais c'est vrai qu'il y a une telle énergie, il y a une telle volonté de faire, il y a une telle soif de liberté que c'est un peu galvanisant et t'es un peu pris dans le truc, quoi. Nicolas, si tu voulais rajouter quelque chose.
Moi je suis un peu moins convaincu que vous, en fait, parce que je retrouve à peu près tout ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on retrouve sa patte qu'il y avait dans Gang of Wasseypur. Et il y a une vraie personnalité chez ce cinéaste. Le problème, c'est que je trouve que la deuxième partie du film, c'est une catastrophe scénaristiquement parlant. C'est-à-dire qu'on sort complètement du film. Tout ce qui est l'enquête de base, c'est-à-dire l'enlèvement et essayer de retrouver la petite fille, non, je ne spoil pas, je dis juste qu'on s'en fout après, quoi. Ça arrive complètement au second plan. Il y a aussi un problème de personnage, c'est-à-dire que les personnages sont à peu près tous des connards. Et donc je n'arrive pas à m'attacher à un personnage, donc je sors complètement du film.
Mais justement, peut-être c'est volontaire de sa part de sortir du sort pour ouvrir des thématiques, peut-être, et voir un petit peu la société indienne.
Voilà,
derrière,
c'est ça. C'est vrai qu'à partir de ça, il y a quand même une peinture assez intéressante, d'ailleurs, qu'on retrouve dans The Lunchbox sous un autre angle un peu plus comique, on va dire. C'est cette tendance avec cette surpopulation indienne à un peu plus une population de plus en plus égoïste, en fait. Et d'individualisme et tout ça, donc ça c'est intéressant. Mais après, narrativement parlant et scénaristiquement parlant, je suis complètement sorti du film, je suis jamais re-rentré dedans, et à la fin j'en avais plus rien à foutre, quoi. Voilà.
Le débat est clos.
Non, mais ça m'énerve. Quoi. Ça m'énerve les films où il y a des belles promesses et puis à la fin.
Mais je trouve qu'en fait après quoi, en fait je trouve pas vraiment important le fait que bah là la petite fille.
On le sait. En fait, j'ai l'impression qu'on le sait.
Oui, c'est implicite, mais en fait quoi, le sort de la petite fille, l'enquête policière, je trouve que ça passe au second plan justement à cette deuxième partie où on s'intéresse vraiment aux personnages, à leur passé, le fait que ce soit tous un peu des enflures. Je trouve que ça apporte un côté assez, bah, assez ugly quoi. Le film s'appelle Ugly quand même, donc ça, tu vas pas t'attendre au bisounours quoi.
C'est confondu avec Beautiful en fait.
Voilà, c'est ça.
Non, mais
c'est tous des enflures et c'est le but quoi. C'est que en fait c'est l'avidité qui est poussée au maximum et au milieu il y a cette petite fille qui dont tout le monde se fout finalement.
Oui.
Et ben c'est ça le sujet du film.
Mais
en
au
fait.
Final, quand moi je sais bien quand j'ai pas d'attache à quelque chose.
Oui, mais c'est grave quoi. Faut te faire soigner.
Quand j'ai pas d'attache à quelque chose. En fait, c'est ugly, c'est la conception de base du film qui me va pas en fait.
Moi, je trouve que voilà, ce côté gangréné, la gangrène, elle progresse au fur et à mesure, et finalement, à la fin, les personnages sont presque tous fous, quoi. Ils sont presque devenus tous tarés en fait.
Ouais, il y a même des trucs complètement absurdes, et
oui, mais justement,
incompréhensibles dans
les justement, des personnages. Ce sens de l'absurde, d'ailleurs,
ça me fait sortir du film, quoi.
Ce sens de l'absurde, il le manie très bien, d'ailleurs. La scène dans le commissariat, c'est quand même un. C'est quand même un truc de fou, quoi. Je vais pas.
C'est au début du film, donc bon, c'est pas non plus.
Mais non, mais le début du film est bien. Hein. C'est l'affrontement entre le. Sans spoiler, l'affrontement entre le mari, le nouveau mari et l'ancien mari.
Non, mais même où les flics sont en train de dire au mec, votre fille s'est fait enlever. Et en même temps, dans la même scène, ils te tournent les flics en ridicule en te mettant une scène comique en même temps, quoi. Donc ça te met un peu mal à l'aise et je trouve que c'est très réussi, quoi, de ce côté-là.
Et c'est vrai que ce mélange des genres, en même temps, c'est quelque chose. Alors c'est vrai qu'on a parlé de cinéma coréen, mais qu'on retrouve de toute façon dans Bollywood, qui de toute façon mélange aussi des scènes humoristiques, des scènes d'action, etc. Après, par rapport à ce qu'on a dit, Ugly est quand même beaucoup moins grand public, enfin beaucoup plus crade, on va dire, que The Lunchbox. Qui reste quand même dans le genre d'une comédie romantique, alors que là, on est dans un thriller social, on va dire, assez difficile, enfin assez dur en tout cas, par rapport à ce qu'il dit sur la société indienne et ses personnages.
Ouais, oui, au niveau, oui, moi je pensais que ceux qui aiment les thrillers, en tout cas, aiment Renvegli.
C'est vrai qu'on est proche du polar coréen, quoi, vraiment, un peu nihiliste, un peu. Voilà, le truc.
Ça m'a fait beaucoup penser à The Chaser, en fait,
oui, voilà,
dont d'ailleurs le pitch se rapproche. Alors que Gangs of Wasseypur, dans sa manière de filmer action, m'avait fait penser à The Murderer. Donc là aussi, on est assez proche du cinéma de Lounging. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant qui se crée justement dans cette approche coréenne du cinéma indien. On va passer au deuxième film de la compétition officielle, qui très certainement ne sortira jamais en France. Donc vous pouvez raconter la fin.
Mais quelle fin ?
Voilà. Alors, après, d'après ce que j'ai vu, il n'y a personne qui est resté apparemment éveillé pendant.
Warrior.
Donc, ce film dont on parle, dont on va parler, s'appelle Toilet Blues de Dirmaiwan Atta, exactement.
Un indonésien.
Un indonésien. Merci, j'avais écrit film philippin en plus, mais pas du tout. On est à fond dans le cinéma philippin en ce moment, donc il en faut un peu pour l'Indonésie également. Qui veut expliquer de quoi ça parle ? Frédéric ?
Oui, pourquoi pas. Moi je trouve personnellement le pitch de départ pas si intéressant que ça. C'est l'histoire de deux jeunes adultes qui partent en road trip et en fait ils se connaissent depuis l'enfance. Ils ont un crush ensemble depuis l'enfance. Ils pensent depuis le début qu'ils sont faits l'un pour l'autre, mais le problème c'est que le garçon pense devenir entrer dans les ordres, devenir un homme de Dieu, alors que la femme, elle, n'attend qu'une seule chose, c'est qu'il déclare sa flamme envers elle. Je trouve que c'est pas si inintéressant que ça comme point de départ. Malheureusement, toute la première partie qui parle de ça donc est extrêmement didactique. C'est toutes les scènes quasiment en fait, ils disent dans les dialogues l'enjeu de la scène et ne font qu'expliquer ce qu'on est censé comprendre. Et donc, du coup, c'est extrêmement lourd. Et à partir du moment où ils finissent par se séparer l'un de l'autre et vivent chacun leur vie de leur côté, on ne sait absolument plus tout de quoi il est question. C'est très, très, très vite inintéressant. Et on part même, à mon sens, dans le dernier tiers, dans quelque chose de... C'est même plus chiant, c'est presque scandaleux au niveau du discours, au niveau du fond, à mon sens, en ce qui concerne le type qui se met à avoir une histoire avec une prostituée qui se fait violer par trois mecs et qui ensuite se met à vouloir sa part du gâteau et ok, il n'y a pas de souci. Ça part très très loin, je sais pas trop quoi. En fait, j'ai pas grand chose à dire sur ce film, quoi. C'est
non, mais c'était bien, juste, ça.
Oui, voilà. La scène d'ouverture avec la glace,
ouais. Pareil.
Peut-être le seul élément du film qui voudra retenir à la fin. Quoi.
C'est ce qu'on a tous retenu, quoi. Cette, ouais. Cette sensualité, il filme la jambe, le corps de cette femme. Excuse-moi, je suis avec la glace, en gros plan, le long de la jambe, les gouttes qui tombent et tout. On s'attendait à un petit trip sensoriel, sensuel, je pensais au truc. Ouais, non.
Qui est beaucoup plus malsain quand il remontre la scène.
Exactement.
Puisqu'en fait, la scène à la fin, en fait, finalement, c'est le mec qui tient la glace, va en fait déflorer la jeune fille.
Exactement. Alors qu'au début,
c'est implicite, c'est pas montré explicitement.
Au début, on croit que c'est des gens qui sont un peu amoureux, petit jeu qui s'opère. On pense un truc un peu à la Trananung, un peu... un truc un peu sensuel, et finalement ça se révèle super glauque finalement. Et
ça m'a fait un peu penser à un autre cas, mais à l'arc de Kim Ki-duk, c'est aussi un peu malsain, ouais. Avec la tache rouge sur la robe.
Mais en l'état, c'est un film où on sait pas vraiment où le réalisateur veut en venir. Il y a un petit trip mystique, philosophico, religieux. Non, c'est même pas autoriste, là. C'est quoi? C'est des postures.
C'est un peu comme.
C'est même pas esthétisant, quoi. C'est pas sur la forme, c'est pas super maîtrisé.
Ah, c'est ça aussi le problème, c'est que.
Le son est dégueulasse.
La photo, on a l'impression qu'elle change en fonction des scènes. On n'a pas la même photo au début ou à la fin.
On a les fameuses cigarettes en paille. J'ai
l'impression que c'est même pas étalonné parfois.
C'est vrai que le pire est le son.
Le son n'est pas synchro.
Non, le son n'est pas synchro, ou alors est absolument surmixé. Enfin. C'est du son du niveau de... La seule possibilité pour que j'accepte de voir un film avec un son pareil, c'est un premier film, un court-métrage réalisé par un ado de 16 ans qui, pour la première fois, tente quelque chose et se rend compte que, ah oui, merde, il faut pas oublier que le son, c'est important. Là, c'est pas le cas, quoi. Je vois vraiment pas comment on peut accepter ça. À partir de là, j'ai envie de dire, tout est foutu, quoi. Tu peux pas accepter un film comme ça. Après, s'il y avait que ça comme problème. Ouais. Mais déjà, quoi. C'est déjà dans l'amateurisme d'un point de vue technique avant même de se demander mais de quoi ça me parle, quoi.
Non, mais il y a même pas d'idée de spatialisation du son, en fait. Le mec, il allume une cigarette à 50 mètres. T'as l'impression qu'il te l'allume juste à côté de ton oreille, quoi. Donc,
après, c'est un petit problème. Les conditions de projection
n'étaient
pas tellement
bonnes. Oui, peut-être aussi.
Peut-être la copie, elle est pas bonne aussi. Hein. Il faut que je le défende un petit peu, quoi. Mais peut-être la copie, elle est pas bonne, quoi. T'as des copies.
Parce que c'est un film indonésien.
Non. Honnêtement, c'est pas seulement une question de.
Non, mais je pense que au niveau du son, il a juste capté les sons ambiants et puis c'est tout, quoi. Ils sont pas emmerdés, ils ont pas mis de dispositif sonore.
Même il y a un moment, comme Nicolas disait cet après-midi, où il cogne contre le micro, on entend le micro de la femme sur elle. Quand elle met sa chemise, il y a une scène à un moment, elle met sa chemise, on entend le micro.
Il avait un minimum de prises, il a fait les sons ambiants.
Tu sens que c'est un premier film qui a pas beaucoup de moyens. Voilà. Mais en même temps, il y a des premiers films qui n'ont pas ces défauts-là, et c'est un peu limite.
Peut s'interroger de sa présence à Deauville, quoi.
Voilà. Puis même il y a le bruit, quand il parle, ça fait mal aux oreilles, quoi.
Quand il gueule dans les champs, un moment,
on se voit avec Fred, je voyais que Fred avait mal aux oreilles.
Non, mais le prochain aussi d'ailleurs, mais c'est le point commun, c'est qu'on a envie de se boucher les oreilles à des moments,
mais
tout à fait.
Mais oui, c'est ça.
Bon, on va justement passer au film suivant. Donc, en tout cas, si vous avez mal à la tête, n'allez pas voir Toilette Blues. Par contre, si vous avez mal à la tête, vous pouvez aller voir ou pas. Là, j'ai raté la transition pour le coup. Still Cold Winter de Choi Jing-seong, qui a été présenté également cet après-midi, qui est le troisième film en compétition, enfin le quatrième avec No Man's Land dont on a parlé juste au-dessus et donc hier. Qu'avez-vous pensé du film? Qui veut le résumé? Elvire, est-ce que...
Bon, je vais le résumer alors.
Alors Jérémy.
Parce que personne ne se dévoue. C'est l'histoire d'un jeune homme, d'un jeune lycéen qui arrive dans un petit village froid et morne de Corée du Sud.
C'est pour le cold.
Et donc, on sent qu'il a des petits problèmes, ce jeune homme. Il arrive dans un lycée, il est un peu perturbé, son père n'est pas là, il travaille à Séoul. Et donc, il se retrouve dans cette classe où il est finalement pas très mal accueilli, finalement. Ils sont pas très, très méchants au début. Et il remarque cette jeune fille cette jeune fille avec son joli visage de poupée, qui un peu inquiétante d'ailleurs, qui fait du patin tous les soirs près au lac. Et donc, il tombe immédiatement sous le charme. Et de là, va se passer des choses... Un peu glauquissime, je vais dire. Il y a une escalade, voilà.
Alors, je pense que le film ne sortira jamais en France, donc on peut spoiler. Qu'en as-tu pensé, Jérémy? Sauf que Marc va aller le voir à la prochaine séance.
Donc, nous ne spoilerons pas trop.
Nous ne spoilerons pas.
Mais c'est difficile. Mais après une première heure qui m'avait bien subjugué, je dirais, il y a une ambiance qui est posée, il y a ce village froid, la neige, ce lac gelé, il y a quelque chose, il y a une ambiance, les personnages sont pas inintéressants, il y a un background qui est assez passionnant, tout le milieu lycéen, etc., c'est quelque chose qui m'intéresse grandement, ces sortes de jeux de pouvoir, c'est assez intéressant de les voir évoluer. Mais à partir du moment où le film bascule un peu dans une sorte, j'ai pas envie de te spoiler, Marc, je suis désolé,
tu peux dire qu'il y a un turning point.
Il y a un turning point, exactement. Et je trouve que ça vire un peu dans un trip à la coréenne, un peu complaisant et qui me plaît pas forcément. Ouais, c'est une facette du cinéma coréen qui me plaît pas forcément. Un truc un peu vain, un peu gratuit et un peu provocateur, un peu provocateur à dessous, quoi. J'ai pas été pris dans la deuxième partie, c'est dommage. Il aurait dû rester dans une critique un peu sociétale plutôt que d'aller plus dans un thriller un peu.
Voilà. Vu et revu, quoi.
Voilà, un truc qu'on a vu mille fois alors que c'était super intéressant, le fait de parler juste du mal-être adolescent, finalement, il aurait dû se limiter à ça, ou à la limite partir sur... j'aime bien quand il crée une sorte d'inquiétante étrangeté avec les gens du village où tu sens une petite angoisse quand même, ils sont tous pas nets, il y a un truc un peu à la Bong Joon-ho, un peu absurde, ils sont tous un peu bouseux, un peu... voilà, il y a un truc intéressant à ce niveau-là, mais il va pas au bout de son idée et... Il vire un peu après à la facilité. Ouais, il cède à la facilité, je trouve. Voilà.
Frédéric, je crois que t'as plus aimé le film que Jérémy.
Ça peut paraître contradictoire, mais à la fois, je l'ai plus aimé, mais en même temps, je suis complètement d'accord avec lui. Je préfère clairement la première partie, mais je l'aime vraiment, en fait. Et en fait, j'ai presque passé le reste du film, mais plus d'une heure, en fait. Moi, c'est quoi, j'ai mis une heure et demie du film, et la dernière demi-heure, et il va durer pas moins de deux heures. Je l'ai passé à me dire, ok, je suis pas forcément d'accord avec ce qui est en train de se passer, mais en même temps, j'oublie pas ce qui s'est passé avant. En fait, la différence, c'est que je suis d'accord pour dire que finalement, quand il s'éloigne quand il change de thème, quand il change de genre, même carrément, c'est moins intéressant et en même temps, ça vient pas de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été mis en place. Tout de suite, quand on les voyait, on ne s'en rendait pas compte, mais c'était des éléments qui étaient mis en place pour faire que la transition à un autre genre passe totalement. Donc, c'est pas totalement innocent et c'est pas vraiment mauvais. Je trouve ça bien fichu. Après, j'aurais pu totalement m'en passer, quoi. Ça, c'est évident. Je trouve que c'est un film vraiment intelligent. C'est un film qui parle de la rumeur, qui parle de comment... ça me fait penser à Oldboy dans un genre complètement différent. Comment, dans une ambiance de lycée, dans une ambiance de jeune, où on se met à colporter des choses extrêmement diffamantes et qui paraît presque... qui paraissent presque inoffensifs dans des yeux d'enfant, peut complètement rendre dingue un gamin et peut prendre des proportions auxquelles on n'imaginait pas. Et ça, c'est un sujet très intéressant, mais là où je trouve le film extrêmement juste et extrêmement fort, c'est que ça parle de ça, donc ça parle de la parole, ça parle du dialogue, ça parle de comment on dit du mal sur un gamin, et en même temps, le film est extrêmement cinématographique, tout se passe par l'image. Je prends vraiment le pari que ça fait partie de ces films où on coupe le son, on voit que l'image, on comprend tout ce qui se passe, à deux, trois exceptions de près. Mais du coup, c'est vraiment un film qui passe à travers ça et à travers une image qui je trouve vraiment belle, vraiment intéressante et vraiment proposant vraiment des choses intéressantes. Du coup, même si je trouve en effet presque dommage que... on aille vers certaines choses qu'on a déjà vues autre part sur la fin, j'ai vraiment envie de défendre le film, moi. Moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui me reste jusqu'à la fin. Et en fait, c'est ça. La fin est presque trop théorique. La fin, ça utilise vraiment des symboles. Voilà. Des symboles trop, trop lourdingues. Et je vais m'arrêter là.
Non, je crois que Nicolas, tu as encore plus aimé le film donc, que Frédéric. Bah,
ouais, j'ai plus aimé le film et je rejoins à peu près tous ses arguments, en fait. C'est juste qu'en fait, je vois aussi les défauts que Jérémy voit dans le film, sauf que j'ai été vraiment touché par cette histoire d'amour romantico-macabre et par ces deux personnages, ce couple de jeunes étudiants. Et donc j'ai cru en ce couple et donc les défauts se sont effacés au fur et à mesure. Et donc j'ai été touché par ce film tout simplement. Voilà. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé malgré les défauts et les maladresses évoquées par Jérémy plus tôt.
Ok, bah je crois qu'on a fait le tour des films en compétition. Je vais peut-être faire un premier tour de table et comme ça on le fera tous les jours. Pour l'instant, sur les films en compétition, quel est le film qui d'après vous va avoir le grand prix donné par Claire Denis et quel est votre film préféré? Donc là, il y en a quatre pour l'instant. Certains en ont vu un, deux, trois ou quatre. Frédéric.
Moi, j'en ai vu que deux. J'ai vu Twilight Blues et le dernier dont on a parlé, dont j'ai oublié le titre, je suis désolé.
Steel Cold Water.
Voilà, oui, c'est ça. Donc, pour l'instant, évidemment, c'est presque une évidence, j'ai envie de dire Steel Cold Water, même si...
Winter.
Même si j'ai pas vu les deux premiers, qui sont apparemment tout aussi bien, voire mieux. Cela dit, connaissant un peu le style de Claire Denis, je me dis qu'elle peut aussi apprécier ce film. Franchement, j'y crois. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, voilà. En tout cas, clairement pas Twilight Blues, ça c'est évident.
Nicolas ?
Moi, c'était le film de la soirée d'ouverture, No Man's Land, qui est donc, on en a beaucoup parlé hier, donc je ne vais pas y revenir, mais c'était un...
Non, après, t'as été très rapide. Jérémy ?
Bah, moi, c'est... Oui, mon film préféré, ça reste pour l'instant No Man's Land, et mon film, et Steel Cold Winter, je pense qu'il peut plaire à Claire Denis, ouais.
Julien.
Oui, alors moi j'ai vu les 4 films en compétition, non, sauf Nomadland, mais j'en ai vu aussi Najima et Trapped. Donc bon, j'anticipe un peu, mais pour moi mon préféré c'est bien sûr Najima, de très très loin, qui vraiment s'inscrit dans une nouvelle vague kazakh incroyable, quoi. Et pour le Grand Prix, il y aura peut-être dire une grosse connerie, mais Toilet Blues, ça m'étonnerait pas, quoi. Ça ferait Eternity volume 2, quoi. Ça m'étonnerait pas. Mais après, bon, c'est pas le même jury, c'est pas la même sensibilité, mais...
Eternity était bien mieux. Que Blues,
je sais pas, j'ai vu que les 10 premières minutes, après je suis endormi.
Juste d'un point de vue technique et au niveau des ambitions dont on a parlé. Après, la dernière fois qu'elle a été jury, Claire Denis, elle a donné un prix à Aung San Suu, à un certain regard, à Cannes, à qui est un excellent film. Donc je fais tout à fait confiance.
On connaît ses petites relations alcooliques avec Aung San Suu, donc bon.
Claire Denis. Si vous nous écoutez.
Il suffit qu'à rencontrer le réalisateur indonésien, ils vont faire Ami-Ami, puis tu vas voir.
Elvire, ton prix.
Alors, bon, sur les trois films que j'ai vus aujourd'hui, pour l'instant, c'est Ugly qui me reste en tête. Concernant le prix, j'avoue que j'en ai pas la moindre idée. Là, je peux pas me prononcer. J'attends d'en voir un peu plus.
Moi, je pense que Trapped aussi a peut-être ses chances.
Ouais, Trapped,
c'est un sujet assez.
Il y a le film aussi Prima Marrakech
mais qu'on n'a pas encore
vu. On n'a pas encore vu et qui quand même, enfin qui a une bonne réputation.
Et pour ma part, alors le film que je préfère pour l'instant, c'est Ugly assez largement. Moi, je miserais sur Steel Cold Winter pour une scène avec notamment un épi de maïs qui précède une scène de viol. Ceux qui ont vu Les Salauds comprendront pourquoi ça pourrait plaire à Claire Denis.
Ça pourrait plaire à Claire Denis.
C'est clair.
Marc, je me tourne maintenant vers toi. Alors, en fait, tu n'as vu que No Man's Land de la compétition, car aujourd'hui, tu as passé une journée complètement différente de la nôtre, mis à part Monster, et tu as vu quelques films qui venaient du Sri Lanka. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler?
Il y a trois films Sri Lankais qui sont projetés pendant le festival dans le cadre d'un hommage à l'actrice Malani Fonseca. Donc j'en ai vu deux ce matin. Le premier, qui est considéré comme un classique et un des 10 meilleurs films Sri Lankais, donc, qui s'appelle « Les Wasps sont arrivés ». Alors, contrairement à ce que le titre peut faire penser, ça ne parle pas du tout d'Américains protestants anglo-saxons qui arrivent au Sri Lanka pour dézinguer des Sri Lankais et leur faire boire du coca. En fait, ça parle de la rivalité entre les citadins et les ruraux. En gros, il y a une personne qui est le fils d'un industriel qui travaille avec des pêcheurs locaux, qui vient remplacer son père, et en gros, qui ne fait pas vraiment ami-ami avec la population locale. Et donc, il y a un gros conflit entre le gars de la ville qui arrive, qui écoute les Beatles, qui se saoule, qui a des mœurs assez légères vis-à-vis des femmes, et les autochtones qui, eux, sont des pêcheurs un peu hardcore et qui n'ont pas du tout la même mentalité et qui voient d'un mauvais œil ce nouvel arrivant qui, en plus, ziote sur la fille d'un pêcheur qui est promise à un autre pêcheur depuis qu'elle est toute petite. Donc ça crée des conflits, il y a le conflit entre du coup les pauvres pêcheurs plus le riche fils d'un industriel et en plus le conflit entre les citadins et les ruraux. Et ce qui est excellent, c'est que dans la dernière bobine, il y a un des types qui, sans spoiler, en fait, c'est un des types qui parle face caméra, mais qui parle à une foule en leur expliquant comme quoi, en fait, les pêcheurs sont vraiment mieux que les citadins. Et c'est un citadin qui dit ça, parce qu'il dit qu'en gros, ils ont tout compris au communisme primitif et qu'il n'y a pas besoin de gouvernement et qu'ils peuvent vivre en autogestion et que, voilà, ils sont corrompus maintenant par la ville et que c'est scandaleux. Et ça m'a fait penser, en fait, au discours qu'on trouvait à la fin des films shanghaïens, prolétariens des années 30, et aussi dans le cinéma soviétique et le cinéma coréen, nord-coréen. Souvent dans la dernière bobine, il y avait toujours le moment où on parlait du grand général et comme quoi la vie était super. Et là, en gros, c'est un discours sur le communisme primitif. C'est ce qu'il dit dans le film, donc c'est plutôt pas mal.
Le film est de quelle année d'ailleurs ?
Le film est de 78. Donc je crois qu'à la fin des années 70, politiquement, il y avait quand même pas mal de troubles au Sri Lanka. Mais je ne sais pas plus sur la politique du pays, qui est assez complexe, je crois, du moins depuis les 50 dernières années. Et le deuxième film, un peu plus classique et un peu moins bon, qui s'appelle Les Fleurs du Ciel, qui est sorti début des années 2000, qui parle d'un autre sujet un peu social aussi, qui parle justement ça parle du monde du cinéma et des actrices et des acteurs qui mènent une vie extra-conjugale, extra-maritale. Et en gros, quand tu te fais choper pour adultère et que c'est rendu public, ta carrière est terminée et vis-à-vis de la population et même des autres membres de ta famille, c'est vraiment très difficile de soutenir un adultère ou une fille cachée, un fils caché ou une fille cachée, etc. Donc ça parle de ça. C'est un film qui parle beaucoup des femmes. Il y a au moins 3 ou 4 rôles principaux qui sont tenus par des femmes dans le film. Et c'est pas mal, mais c'est pas transcendant, mais ça se laisse regarder. Voilà. Et demain, il y a le dernier film qui s'appelle Le Trésor, un film du début des années 70 et qui, lui, est considéré comme le meilleur film Sri Lankais. Donc, à voir.
Donc, si vous écoutez ce podcast
et qu'on l'a mis en ligne, effectivement, cette nuit, courez-y, parce que là, il vous reste quelques minutes, a priori, pour vous rendre à la projection. Donc c'est à 10h30.
À 10h20,
10h30. 10h20, 10h30. Voilà, bah, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce qu'on a dit. Bon, parfait, bah, on vous donne rendez-vous demain pour d'autres films et d'autres aventures à Deauville. See you, Space Cowboys.
Merci.
Salut.